En partenariat avec le festival Musique et Cinéma Marseille, Radio Grenouille a réalisé une série d'entretiens de duos de compositeurs et de réalisateurs en direct du Café Bloom au cinéma L'Artplex.
Coralie Laverne et Max Zippel, bonjour.
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 Vous êtes invité aujourd'hui au micro de Radio Grenouille pour parler du court-métrage Aïcha, donc qui a été réalisé en 2023. Coralie Laverne, vous êtes réalisatrice.
Oui.
Mais aussi actrice, productrice et scénariste. Bon, sur Aïcha, en l'occurrence, vous êtes réalisatrice et scénariste.
Exactement. Et productrice, je ne le suis pas. cette casquette, mais non.
Ah bon, oui, d'accord.
Dans la vie, non. Je fais tout le reste, mais pas ça.
Il y a plusieurs bios sur Internet alors qu'ils disent une bêtise.
Ok. Je vais aller corriger ça. Ok, merci.
Bon, ceci dit, c'est vrai que c'est pas le métier le plus artistique.
Non,
c'est préférable.
Vaut mieux pas me confier ce genre de choses en plus. L'artistique, ça va, le reste, pas évident.
Puis les deux casquettes réalisatrices productrices, ça peut souvent mettre en difficulté, hein, parce qu'entre le cœur et la raison, c'est pas toujours simple.
Complètement.
Max Zippel, vous êtes compositeur et musicien.
Tout ça.
Ouais, voilà, ça, pas producteur.
On parle de production aussi en musique, mais ça a un autre sens.
Ça va. Vous avez travaillé sur différents projets d'art visuel, mais aussi au cinéma, notamment sur des séries Netflix, plusieurs longs métrages. Là, vous êtes à la composition musicale donc du court métrage Aïcha. On vous accueille en duo pour cette collaboration. C'est votre première collaboration?
Et pas vraiment. En fait, on avait mon précédent court métrage qui s'appelle Frères et Sœurs. À l'origine, je voulais mettre de la musique dessus et Max avait fait des maquettes que j'avais trouvées sublimes et qui en plus avaient des sonorités orientales un peu, enfin méditerranéennes. Et finalement, j'avais fait le choix d'enlever toute musique pour qu'on. C'était un film qui était très fort dans l'immersion, dans les calanques, dans. Et je voulais que tout ça ressorte très fort, donc on avait fait le choix et c'était déchirant d'enlever la musique. Et je m'étais dit, si je fais un autre film, je retravaillerai avec Max. Donc c'est notre deuxième collaboration en fait.
Et même on peut dire qu'avant on s'était d'abord rencontrés. Coralie, elle avait fait actrice dans un de mes premiers clips d'un
oui,
projet
vrai.
Solo.
Oui.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Ouais, complètement.
Donc pour reprendre la genèse de Aïcha, puisque là tu as évoqué le cadre aussi de ce court-métrage, au niveau de l'histoire, Elsa a 12 ans et vit avec sa mère dans un petit village de Provence. Elle va rencontrer pour la première fois son grand-père maternel qui arrive d'Algérie pour une visite. Ce qui va faire considérer sous un nouveau jour sa relation avec sa mère. J'essaie d'être succincte sans trop en dire non plus.
Ah, je pense qu'on peut en dire plus.
Vas-y.
Parce que ce synopsis, on a essayé de le faire très court, c'est vrai. Mais en fait, c'est un film surtout qui parle de l'identité. C'est-à-dire que Elsa, quand elle va rencontrer son grand-père, elle va découvrir que sa mère a changé de prénom. Elle avait un prénom algérien, qu'elle a changé quand elle est arrivée en France, et sa propre fille, donc Elsa, notre héroïne, n'était pas au courant. Et en fait, elle veut faire le chemin inverse de sa mère, elle veut comprendre d'où elle vient, elle veut savoir d'où vient sa mère, quel est son prénom, et donc on n'en dit pas trop, mais un peu quand même. Mais c'est important pour comprendre la thématique du film, de raconter ça.
Et Coralie Laverne, justement, cette thématique de l'intergénérationnel, la filiation, c'est pas votre premier essai en termes de thématique et de fil rouge de film, puisque sur Frères et Sœurs, votre précédent court-métrage, on y était aussi.
Oui.
Ça vous habite.
Oui, c'est très juste. C'est marrant parce que, à la fois, du coup, la filiation est encore là, mais après, c'est traité de façon très différente. Dans Frères et Sœurs, on parle vraiment d'un lien entre un frère, une sœur et un enfant qui fait le lien entre les deux. Là, sur Aïcha, la filiation est très présente, mais la thématique du film, c'était vraiment celui de la transmission, de l'héritage, de la reconnaissance de nos origines, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la filiation, vous avez raison, ouais, qui est très présente.
Par ailleurs, aussi, quelque chose qui est présent, c'est le cadre, donc les calanques, sa lumière. C'est ancré ici, pas seulement Marseille en tant que ville, mais en tout cas la région. Pourquoi avoir choisi ce cadre-là, spécifiquement?
Parce que j'ai grandi ici.
Oui, j'ai ouï dire que l'équipe de tournage était plutôt locale aussi.
Ah bah oui, carrément. Bah oui. Oui,
oui. J'aime bien l'évidence.
Une grande partie, après, il y a des personnes qu'on a pris de Paris, mais une grande partie de l'équipe est marseillaise, ouais, carrément.
C'est bien, il faut faire vivre le
mais
tissu
oui.
local.
Surtout, il y a plein de gens géniaux. On avait une équipe merveilleuse, carrément.
Et Max Zippel, pour vous, terrain de jeu aussi bien connu, Marseille, ses environs, ou pas du tout?
Si, si, moi, je viens tout le temps. Je viens,
de
seul truc qui m'empêche de venir plus, c'est que j'aime trop. Et que.
Et pourquoi c'est un problème?
Bah parce que ça fait ressortir un côté chez moi qui est très créatif, mais qui est un peu foufou. C'est le côté bordélique dont je suis amoureux à Marseille. Si je le fais tout le temps.
Faut le calmer,
je vais dans les abîmes, ouais.
Ça peut du coup déborder sur la composition.
Absolument,
le côté
ouais.
Bordélique. Coralie, vous l'évoquiez juste avant, le fait que vous aviez été charmée, ou en tout cas ce qui vous avait plu aussi dans des compositions de Max, c'était les notes orientales ou quelque chose qui était déjà teinté au niveau de ses compositions.
Ouais, à la fois il y a ça, mais il y a aussi un dialogue qui se fait. C'est-à-dire que bon, après c'est vrai qu'on commence à bien se connaître aussi d'un point de vue créatif avec Max, et je pense qu'il saisit assez vite là où j'ai envie d'amener des choses ou un univers et on a même commencé à travailler ensemble au moment de l'écriture du scénario. C'est-à-dire que je suis assez quand j'écris très souvent en musique, je donne des indications hyper précises dans les scénarios dans ce moment-là une musique démarre et c'est à peu près ça comme rythme, comme ambiance et tout. Et donc au moment de l'écriture du scénario, j'ai tout de suite fait appel à Max en disant bon, alors attends, du coup j'ai envie d'avoir ça proche de moi pendant que j'écris. Et c'est un peu cette compréhension et cette facilité de dialogue et d'échange qui nous a fait, enfin, qui m'a vraiment donné envie de retravailler.
Et donc Max, vous intervenez dès l'étape du scénario finalement.
En tout cas en termes de pensée. L'histoire est déjà bien installée. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a eu ce désir de m'intégrer sur la fin de l'écriture, milieu fin, puisqu'on a vu en fait sur l'expérience précédente à quel point on avait des choses qui étaient dommages, des choses qui n'étaient pas anticipées, du coup. Des plans qui pouvaient durer beaucoup plus longtemps avec la musique, ou au contraire des scènes, parce que la musique c'est vraiment un univers du non-verbal aussi, du coup ça permet de raccourcir des dialogues parfois, d'être plus sur l'émotionnel, et c'est très riche. Et d'ailleurs l'extrait que vous allez passer tout à l'heure, c'est y a pas de dialogue, et donc ça permet de prendre le relais sur,
et ça raconte plein de choses.
Et ça raconte beaucoup de choses.
Ouais.
Et justement, c'est tout l'aspect délicat aussi de l'utilisation de la composition musicale à l'image, de là où elle peut souligner, voire carrément donner le ton, ou des fois aussi alourdir ou être décalé. En tout cas, c'est toujours quelque chose de subtil, et c'est sur le fil d'arriver à avoir une composition qui colle aussi à l'image et qui lui rend honneur. Et ça marche dans les deux sens, puisque comme vous le disiez, la musique, elle peut être profondément émotionnelle.
Donc c'est de la dentelle. Parfois, on enlève. On a travaillé énormément une musique et on enlève. L'idée, c'est de qu'on n'entende pas la musique, en fait. On doit juste ressentir un film dans sa globalité. Et en fait, on ne devrait jamais noter « Ah, le montage est incroyable, la réalisation est incroyable, le jeu d'acteur... » Ça peut arriver, mais on devrait vivre juste une histoire et recevoir avec le cœur et les sens en général. Et c'est vrai que...
C'est un homme du cœur, mec.
Mais c'est vrai qu'on n'hésite pas, on n'hésite pas à enlever parfois, on a travaillé de musique, et finalement parfois le silence c'est la meilleure musique qu'il y a à ce moment-là. Et donc c'est vraiment, c'est dans les détails qu'on a passé des heures et des heures à questionner des longueurs de musique.
Et justement sur la place qu'on laisse à la musique, parce que là dans Aïcha elle est présente sans être omniprésente. Donc comment vous avez pensé cet équilibre de comment on fait pour la laisser de côté à certains moments et sur certaines scènes. Donc évidemment, effectivement, l'extrait qu'on va diffuser dans pas si longtemps, là la musique elle est aussi actrice aux côtés des actrices.
Carrément.
Mais donc vous, comment vous avez pensé cette architecture musicale dans Aïcha pour que ça soit à la bonne place finalement, que ça soit pas trop ou pas assez?
Là, j'ai envie de dire que ça s'est fait un peu au fil de l'écriture. C'est un peu ce que je disais, comme quand j'écris, j'ai besoin de me projeter beaucoup. Mais après, en écrivant ce film, j'avais envie d'un film où la musique était forte. Parce que ça fait partie, je parle de transmission, d'héritage. Je pense que l'univers sonore et musical d'un héritage, c'est très présent. Donc ça fait vraiment partie même de ce que j'avais envie de raconter. Et après il y a quelque chose, j'ai besoin d'en parler parce que c'est pas mal, j'ai fait une résidence moi qui s'appelle la résidence trio de la musique de la maison du film, qui permet pendant une semaine de travailler avec des compositeurs. C'est-à-dire que moi j'arrive avec un scénario, le scénario est proposé à différents compositeurs et ces compositeurs proposent des choses, et ça permet du coup, de se projeter aussi très vite au moment du travail dans différents univers musicaux et de se dire, ah oui, mais en fait, là, on va trop loin, là, il y en a trop. Et tout est question de dosage, en fait, à la fois même quand on compose la musique, mais aussi quand on décide de le... Bah, on va en mettre à tel et tel endroit du film.
C'est parfait pour pouvoir écouter justement une partie d'Aïcha et de parler de cette histoire de, à la fois de dosage et de subtilité.
Super.
C'était un extrait du court-métrage Aïcha et notre réalisateur Alex Papi-Simonini nous disait en off que c'était franchement magnifique. Je crois qu'on a, on a conquis d'autres personnes dans le Café Bloom. Est-ce que Coralie Laverne, donc, tu peux nous décrire ce qui se passe pendant cette scène, cet extrait ?
Carrément. C'est super comme choix parce que c'est une scène qui raconte presque le court-métrage. On a cette petite fille qui vient de rencontrer son grand-père et son grand-père lui a donné une main de Fatma. Pour elle, c'est hyper chargé en sens, en symbolique, etc. Et elle est dans son lit, elle dort avec sa maman. Et en fait, elle met la main de Fatma sur son front et c'est comme si elle recevait tout l'héritage qu'elle a fantasmé, qu'elle a imaginé et qu'elle a enfin là à portée de main parce que c'est dans sa main, c'est la petite main de Fatma qui lui a offert son grand-père. Et elle va prendre cette petite main et elle va la mettre sur le front de sa maman qui dort. Parce qu'en plus, son grand-père lui a dit que c'est quelque chose qui peut te protéger. Et en fait, ce mouvement de « je prends la main de Fatma et je la mets sur le front de ma mère aussi », c'est un peu le « j'ai envie que toi aussi t'embrasses ton héritage, ton identité ». Et en plus, il y a quelque chose de protecteur dans le geste de cette petite fille vis-à-vis de sa mère. Et donc, cette musique, il faut savoir que cette séquence, à l'origine, on s'était dit « tiens, on va peut-être faire de l'animation dessus ». Imaginer peut-être un univers qui correspondrait au fantasme de la petite fille, etc. Et en fait, quand on a vu cette musique avec les images, on s'est dit mais on raconte tout et surtout on laisse le spectateur imaginer et projeter ce qu'il a envie de projeter par rapport à ces sonorités-là. Et on a fait aussi un gros travail sur le sound design avec des voix d'enfants, des mots en arabe qui projettent vraiment ce que la petite fille imagine de ce que pourrait être l'Algérie.
Et de cet héritage supposé aussi, puisque il y a
plus cette... que supposé du coup.
Oui, ouais, voilà, mais c'est cet héritage qui lui manque et qu'elle a envie de retrouver, de saisir. C'est vrai que c'est une scène qui est profondément introspective, où il y a aussi c'est chaud et à la fois un peu flou comme image. Donc on est vraiment saisi où la place du son, elle est centrale. Max Zippel, vous, alors quel plaisir vous avez pris sur cette scène-là, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de travail. Hein.
Oui.
Vous êtes amusé ?
J'ai cru que t'allais dire non. C'est venu d'un coup.
C'est pas un geste.
Juste un geste.
Ceci dit, c'était quand même très intuitif parce que j'ai utilisé le oud, qui est un instrument traditionnel de la région, Et c'est vrai que moi, je ne joue pas de oud à la base. Et du coup, c'est vrai qu'on avait fait des essais aussi où on allait plus peut-être engager vraiment des virtuoses de ce style de musique un peu classique, traditionnel. Et en fait, ça s'est fait très, très naturellement. C'est-à-dire que la question de la transmission entre l'Algérie et la culture française, en fait, simplement en passant par les fibres, mes fibres, je suis franco-allemand, mais dans mon imaginaire à moi, ça a raconté aussi une partie assez naturellement, finalement, de ce que raconte le film, dans le trajet intellectuel et sentimental de ce que peut évoquer ce genre de sonorité. Mais c'était la première fois que je jouais du oud, je l'ai loué pour l'occasion j'étais quand même agréablement surpris que Coralie soit
pas mal
tout de suite contente. Ouais.
Bah oui.
Et les acteurs ont pu tourner avec cette musique d'ailleurs.
Ouais. On l'avait sur le tournage, c'était génial.
Oui, donc ça avait été fait en amont, ouais. Et donc vous avez diffusé cette musique pendant le tournage.
Et toute l'équipe, donc on avait diffusé, c'était hyper fort sur le plateau.
Oui, ça donne cette
émotion. C'était génial. Toute l'équipe était hyper, hyper émue, ouais. C'était marrant.
Quelque chose qui est assez bouleversant dans le court-métrage Aïcha, c'est effectivement cet attachement au territoire et à cet aspect fragmenté de l'histoire. Moi, je trouve que c'est profondément pertinent de l'inclure ici, à Marseille, puisque c'est une ville profondément cosmopolite et aussi qui est fragmentée par l'histoire. Donc on sent au travers de ce choix sémantique votre propre attachement, Coralie.
Oui, clairement. Oui, clairement. Bah, oui, parce qu'il y a ça aussi, quand tu m'as demandé pourquoi à Marseille, parce que j'y ai vécu, mais aussi c'est une histoire qui est un peu inspirée d'une histoire personnelle. Donc quand je l'ai traversée, moi étant enfant, c'était ici aussi. Donc il y a une forme de fidélité à la réalité qui m'a inspirée ce récit, oui.
Et pour la suite des aventures, des projets, j'ai ouï dire qu'il y avait un projet de long métrage, potentiellement.
Oui, carrément.
Est-ce qu'on va retrouver ces motifs l'affiliation
Très fort, oui. Ouais. Carrément. C'est un projet qui ne va pas parler de l'identité multiple, mais mon personnage principal est un personnage avec une double culture. Je trouve que ça crée des densités fabuleuses dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on traverse en tant qu'être humain, quoi. Et donc ça m'intéresse de mettre ce personnage-là, mais au cœur d'une histoire autre qui la dépasse, enfin qui dépasse un peu cette thématique.
Voilà. Et d'un point de vue musical, ça permet aussi d'emprunter à différents univers, à différentes cultures. J'imagine que ça doit être aussi un exercice plaisant pour un compositeur de pouvoir emprunter à ces différentes cultures en termes de sonorité.
Et même Nazia serait bien d'en parler.
Nazia, oui.
Qui est Nazia?
La chanteuse de la musique de générique.
Oui, c'est la scène de fin, donc ça déborde sur le générique. Et c'est une chanteuse traditionnelle marocaine, et adorable et hyper douée. Et là aussi, c'était une histoire de curseur. Vraiment, où est-ce qu'on... À quel point on est... Parce qu'elle chante très, très traditionnelle, donc elle a l'habitude d'être... de faire des chants très très traditionnels avec beaucoup d'ornementation vocale et là c'était comme jusqu'où on va pour raconter ce qu'on veut raconter. C'est très très fin, c'est un travail qu'on a fait avec elle. Et sur les paroles, Coralie a appelé sa maman pour pouvoir avoir des souvenirs du pays, pour pouvoir parler de la nostalgie du pays, et qui nous a raconté des souvenirs d'enfance incroyables.
Non, tu parlais de fragments. Alors, oui, les paroles de cette musique. Donc, j'ai appelé à la fois ma mère en lui disant « Tiens, t'as des souvenirs d'Algérie ?» Et j'ai aussi appelé ma tante en me disant « Est-ce que tu te souviens? Est-ce que t'as des souvenirs de ton enfance ?» Et alors, les deux versions étaient complètement différentes. Je me suis dit « C'est fou, la puissance du... » Enfin, la mémoire est...
La mémoire est vraiment... quelque chose de à la fois vivant et...
Et tellement propre à chacun et tellement fragmenté aussi. Mais à partir de ça, on a collaboré aussi avec Nazia sur les paroles. Elle nous a traduit les paroles qu'on a écrites pour vraiment écrire quelque chose qui parle de... Parce que le dernier plan du film, c'est sur la mère qui enfin... faut pas tout dire. Mais il y a une forme d'acceptation de son passé, de son histoire. Et donc les mots, les paroles de la musique... qui sont sur la mer, parlent vraiment de cette nostalgie du pays. C'est le mot de la fin du film.
Et comme mot de la fin, en tout cas en ce qui concerne votre collaboration, visiblement c'est une collaboration réussie, sinon on n'aurait pas cette ambiance-là pendant ce plateau.
Ouais.
Est-ce que vous envisagez de réitérer l'aventure, l'expérience dans la suite des projets ?
Bah, grave. Du coup, je prends la parole. Bah oui, carrément, carrément. Bah, j'espère travailler suffisamment pour qu'on puisse en faire d'autres. Voilà.
Et Max, vous avez déjà l'expérience du long métrage, ce qui...
Alors non.
Ah non ?
Non.
Ah bon ? Mais qu'est-ce que j'ai pu sur quoi je suis tombée sur l'internet ?
J'ai fait des synchros, c'est-à-dire que c'est des musiques sur des projets perso, genre Concorde ou Max Futur, qui ont été utilisées dans des séries ou dans des films. Après, ça ne serait tardé.
Bon, en tout cas, est-ce que c'est un désir d'aller vers le long métrage ?
Oui. À la fois, ça fait peur, c'est très excitant. Mais quand on est aussi passionné, qu'on s'engage autant, encore une fois avec le cœur, désolé, mais c'est...
C'est un romantique, c'est... En fait.
Oui, c'est vrai que c'est un engagement, c'est un voyage qui est très prenant, parce qu'en fait, en tant qu'artiste, on ne s'arrête jamais de travailler. On se réveille la nuit avec des idées.
On ne dort plus.
On dort... en fait, même en dormant, on travaille. Donc, non, c'est magnifique, j'ai hâte. Hein.
Moi, quand je dors, je dors.
Et on vous souhaite donc une grande insomnie créative pour les prochaines années.
Avec plaisir.
Peut-être à l'année prochaine sur le MCM.
Bah avec plaisir.
Et merci de nous avoir invités.
Merci à vous.
Carrément.
Coralie Laverne et Max Zippel. Merci.
Très fan de Radio Grenouille.
Par ailleurs, le court-métrage Aïcha est en compétition officielle donc, pour le Festival Musique et Cinéma Marseille. Donc on vous souhaite une bonne fin de festival et une bonne circulation évidemment du court-métrage.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Radio Grenouille 88.8.